RTL Info. Le journal Sonia Bernauer-Mia.
Bonsoir. Mieux protéger les joueurs face au poker et autres plateformes en ligne, c'est le but de la nouvelle loi sur les jeux d'argent soumise au vote populaire le 10 juin prochain, un texte soutenu par le casino de Neuchâtel. La signalisation routière à l'entrée d'autoroute de la Maladière à Neuchâtel est farfelue et sera changée. Le symbole d'interdiction de circuler recouvert d'une croix donne une fausse indication la nuit et peut être mal interprété le jour. Sans Joël Bruchweiler, Colombier Volley a malgré tout livré une bonne saison en Ligue Bena masculine de volleyball. Le club du littoral a largement évité la relégation et peut se targuer aussi de la qualification de ses juniors pour les finales du championnat de Suisse. Le soleil devrait être un peu plus présent demain, même si les nuages occuperont encore assez largement le terrain. La législation concernant le poker, le blackjack et les autres machines à sous pourrait évoluer. Le 10 juin prochain, le peuple suisse se prononcera sur la nouvelle loi sur les jeux d'argent qui touche directement le casino de Neuchâtel. D'un côté, le Conseil fédéral exige que les règles soient similaires pour tous les exploitants et par conséquent que les sites de jeux étrangers soient bloqués. De l'autre, un comité référendaire veut que ce type de jeu soit libre sur Internet. Le casino de Neuchâtel existe depuis plus de 5 ans. Et pour le directeur de cet établissement, cette nouvelle loi a toute son importance. Pascal Passarelli.
Elle est utile, elle est importante, je dirais même qu'elle est primordiale pour l'avenir des casinos en Suisse. Voilà, nous, on travaille depuis maintenant des années dans un cadre légal hyper strict. Les casinos en Suisse sont les casinos les plus contrôlés dans le monde, il faut le savoir. Ils sont reconnus aussi par leur sérieux. Par contre, il y a une offre de jeux en ligne qui est pour l'instant totalement illégale en Suisse. Et nous, ce qu'on veut avec cette votation du 10 juin, c'est que cette nouvelle loi passe et que l'on puisse exploiter des casinos en ligne en Suisse.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez faire campagne concrètement ?
Oui, alors nous avons déjà commencé depuis quelques années au niveau du jeu en ligne. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on arrive dans la dernière ligne droite et les casinos, l'ensemble des 21 casinos, à travers de la Fédération Suisse des Casinos, nous allons faire campagne pour que le oui soit voté le 10 juin pour cette nouvelle loi.
Un sujet d'Alizé Lichty. Une monnaie qui se veut rassembleuse. Une motion a été déposée jeudi par plusieurs députés demandant au Conseil d'État neuchâtelois d'étudier la possibilité d'instaurer une monnaie locale complémentaire neuchâteloise. Le but est de stimuler la production et la consommation locale de biens et de services, ainsi que de renforcer la cohésion cantonale. Cette monnaie serait un moyen de paiement permanent. Jonathan Gretilla, député socialiste, est l'un des signataires de cette motion.
C'est l'idée d'avoir une nouvelle monnaie pérenne, donc qui ne soit pas juste une expérimentation, une expérience temporaire pour voir quels sont les avantages que cela peut procurer à l'économie neuchâteloise, mais d'avoir vraiment quelque chose qui soit envisagé dès le départ pour durer. Donc c'est vraiment l'optique dans laquelle on envisage d'étudier cette question-là. Et puis en fonction aussi du succès que cela peut avoir, et puis aussi des expériences concrètes qu'on peut en retirer, de voir aussi quelles sont les évolutions potentielles, de voir aussi peut-être dans quelle mesure ce genre d'exemple peut pas aussi être repris autour de nous, dans d'autres cantons. Donc voilà, il y a quand même un aspect un peu pionnier de ce genre d'expérience, et puis c'est dans cette optique-là qu'on le propose également.
Les signataires de la motion espèrent que la question pourrait être traitée par le Grand Conseil d'ici l'été. Carambolage dans les tunnels sous la ville de Neuchâtel. Un accident impliquant 5 véhicules s'est produit ce matin à 8h sur l'autoroute A5 dans le tube ouest en direction de Bienne. 3 personnes ont été blessées et ont dû être conduites à l'hôpital pour Thalès. Le tronçon concerné a été fermé jusqu'à 10h pour les besoins du constat et pour le nettoyage de la chaussée. Panneau déroutant, la signalisation installée à l'entrée d'autoroute de la Maladière à Neuchâtel, direction Bienne, a de quoi perturber certains automobilistes. En cause, un symbole d'interdiction de circuler recouvert d'une croix. De jour, cette information peut être faussement interprétée comme une double interdiction d'emprunter le tronçon autoroutier alors que la chaussée est ouverte. La croix est toutefois considérée comme une annulation de l'interdiction. Mais où le bât blesse, c'est que cette signalisation ne tient plus la route de nuit lorsque l'entrée d'autoroute est vraiment fermée. À ce moment, les cônes posées au sol empêchent toutefois les automobilistes d'emprunter la chaussée. Cette signalisation étonnante a été modifiée selon Olivier Floquic, responsable de la communication pour l'Office fédéral des routes.
La cause de cette signalisation un petit peu folle, si on veut bien, c'est des problèmes techniques qui nous ont amené encore cet après-midi la mesure suivante, à savoir remettre la signalisation verticale en ordre. C'est donc enlever ces sangles qui barrent les panneaux d'interdiction d'utiliser ces voies pour remettre en place donc l'indication direction Bienne, avec dans la configuration de nuit où effectivement on aura des pistes qui seront fermées, je dirais une information qui sera donnée au travers du conage. Donc ce conage qui nous permettra effectivement d'indiquer clairement quelle est la voie à suivre.
Avec effectivement disparition du coup du rond d'interdiction et des croix hein, qui barraient le panneau.
Exactement, c'est exactement ça.
Et pour l'heure, le problème technique qui affecte le pilotage à distance du panneau n'est pas encore résolu. Une nouvelle plateforme d'information et de rencontres entre entreprises formatrices et jeunes à la recherche d'une place d'apprentissage ou de stage voit le jour. Le premier forum neuchâtelois des métiers prendra ses quartiers le 18 avril à Colombier. Chaque édition sera consacrée à un domaine professionnel spécifique. La première s'articulera autour des métiers du bâtiment. Ce forum des métiers remplace la nuit de l'apprentissage. Le service des formations post-obligatoires et de l'orientation prévoit d'en organiser deux par année. Passer par les langues étrangères pour appréhender le français, c'est l'une des expériences proposées dans le cadre de la 23e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie qui se tient dans le canton de Neuchâtel jusqu'à dimanche. Cesco Real, linguiste passionné qui parle lui-même une dizaine de langues, est intervenu dans une classe du collège de l'Ouest à La Chaux-de-Fonds. Et s'il a proposé aux élèves de s'intéresser aux langues étrangères pour parler du français, c'est pour une raison précise. Cesco Real.
Montrer comme le français peut être utilisé pour se lancer à apprendre d'autres langues. En particulier, j'ai montré des phrases en catalan, en roumain, en allemand, en espéranto. Je demandais de lire et après d'essayer de traduire. Et donc c'était justement des phrases conçues pour montrer comme souvent on peut quand même essayer de comprendre une autre langue. Il ne faut pas avoir peur, il faut quand même se lancer, essayer. L'idée c'était utiliser ce cadre pour lancer quand même un message d'ouverture sur les langues. Alors clairement sur le français, mais aussi lancer un pan pour s'ouvrir aux autres cultures à travers le français.
Plus d'informations sur les événements proposés dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie sur rtn.ch. Le canton de Vaud construira une nouvelle prison à Orbe. L'objectif est de lutter contre la surpopulation carcérale. La première étape débouchera sur la réalisation de 210 places de détention entre 2023 et 2025. Les parlementaires veulent une réponse ferme après la tentative de rapt turc. L'affaire révélée par la presse la semaine dernière alourdit le climat entre la Suisse et la Turquie. Des employés de l'ambassade turque ont tenté d'enlever un citoyen helvétique. Le ministère public de la Confédération a ouvert une enquête sur cet événement qui suscite l'indignation de la Commission de politique extérieure du Conseil national qui discutait de ce cas aujourd'hui. Un cas qui intervient alors que le conseiller fédéral Ignacio Cassi a prévu un voyage en Turquie. La commission est présidée par la démocrate chrétienne baloise Elisabeth Schneider-Schneider.
C'est une crise. Il faut parler d'une crise et c'est très important que M. Cassis fait ce voyage parce que seulement parler avec les diplomates ici en Suisse, ça ne suffit pas. Il faut parler avec les gens qui sont importants. Pour moi, c'est une forte réaction quand il fait ce voyage.
Ignacio Cassi maintient pour l'instant l'idée de ce voyage en Turquie, même si aucune date n'est fixée. On l'écoute.
Il n'a rien à faire avec cette histoire. Il était prévu bien avant pour discuter surtout avec la Turquie de la situation du conflit turco-syrien dans la région d'Afrin où on est très préoccupé pour d'un côté la tragédie humanitaire qui est en train de se développer et en même temps pour l'escalation de ce conflit qui est en train d'enflammer peu à peu tout le Moyen-Orient et donc de déstabiliser une partie importante de la planète et la Suisse s'efforce d'éviter que ceci arrive.
Et en Syrie, justement, plus de 200 000 personnes ont fui la ville d'Afrin en proie à cette offensive turque. Les secteurs voisins n'offrant pas d'abri, les fuyards se retrouvent sans accès à l'eau et à la nourriture. Hier, les forces turques ont affirmé avoir repris le contrôle de cette ville des mains des milices kurdes. Un accord a été trouvé aujourd'hui à Bruxelles en vue de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Européens et Britanniques ont négocié intensément ces derniers jours. Des négociations qui se sont donc soldées par une entente qui permet l'ouverture d'une période de transition de 21 mois avant la sortie complète du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 décembre 2020. Cet accord porte sur la question financière et les droits des citoyens. Il ne résout toutefois pas définitivement la question de l'Irlande du Nord. À Bruxelles, une correspondance de Pierre Benazet.
Cet accord conclut les négociations sur deux des trois priorités des Européens, à savoir sur le règlement financier dont doit s'acquitter le Royaume-Uni pour quitter l'UE et sur les garanties de long terme pour les citoyens installés d'un côté ou de l'autre. Ceci entraînera la mise en œuvre de la période dite de transition, dont les dates font elles aussi l'objet d'un accord ce matin. Le Royaume-Uni restera dans l'UE après le 29 mars 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020, de manière à pouvoir finaliser les préparatifs de sa sortie effective. Mais il ne prendra plus part aux décisions. C'est à ce moment-là que la future relation euro-britannique sera gravée dans le marbre. Elle semble de plus en plus devoir ressembler à un simple accord de libre-échange comme celui avec le Canada. Il y a encore un point qui bloque, le statut de l'Irlande du Nord. Si aucune nouvelle solution n'est trouvée, l'Irlande du Nord restera dans l'union douanière avec l'UE et dans le marché unique, contrairement à la Grande-Bretagne. Tous les points de l'accord de ce matin devront être avalisés lors du sommet européen de vendredi.
Deux points noirs dans une élection présidentielle russe qui s'est globalement déroulée correctement, c'est le verdict des observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, chargée de scruter la réélection du président russe Vladimir Poutine, qui a obtenu hier un quatrième mandat. Des observateurs qui pointent tout de même du doigt un manque de véritable concurrence, ainsi que des irrégularités visant à accroître la participation.
Vous écoutez RTN, il est 18h12.
Sport. Les deux frères Yakin sanctionnés, la Swiss Football League a suspendu respectivement pour 5 et 3 matchs Murat et Hakan Yakin pour insultes envers les arbitres. Des faits qui se sont produits lors de la rencontre entre Grasshopper et Lausanne le 3 mars dernier. Coach de Getse, Murat Yakin, avait notamment violemment réagi lorsque l'un de ses joueurs avait été expulsé à la 85e minute de jeu. Saison de transition réussie pour Colombier Volley. Le club du littoral a terminé au deuxième rang du tour de relégation masculin de Ligue B. Il a clôturé son championnat samedi par une victoire 3-2 contre la seconde garniture du NUC. À la suite du départ à la retraite de Joël Bruchweiler, Colombier Volley ne pouvait plus compter sur son enfant prodige cette saison. Formé de joueurs peu expérimentés, la formation d'Alex Prunonosa s'en est toutefois bien tirée. Le bilan de l'exercice est bon pour Patrick Bordoni, le président du club, qui a un autre sujet de satisfaction, la qualification des moins de 19 ans pour le Final Four du championnat de Suisse. Patrick Bordoni.
Pour la Ligue Nationale B, il y a eu le départ notamment de Joël Bruchweiler, plus passablement d'autres départs. On savait que ça ne pouvait pas se passer comme la saison passée. Donc l'objectif principal était le maintien de la Ligue Nationale B dans ce niveau-là, ce qui a été parfaitement réussi puisqu'on finit deuxième du tour de relégation. C'est vrai, en passant par des moments un peu plus difficiles, avec un peu plus de crainte quant au maintien de l'équipe, mais les joueurs ont su réagir au bon moment, quand il fallait gagner des matchs. On s'était fixé trois objectifs principaux pour le mouvement masculin. Donc, comme j'ai dit, maintien de la Ligue B, maintien de la Première Ligue et la participation pour les juniors M19 au Final Four. Et les trois objectifs ont été parfaitement atteints.
Des propos recueillis par Marcel Neuenschwander. En hockey sur glace, le CP Fleurier joue ce soir dans le Jura, le quatrième acte de la finale de groupe des playoffs de deuxième ligue. Les Fleurisans affrontent Delémont à 20h30. Ils mènent 2-1 dans la série. En cas de succès, ils seront qualifiés pour la finale romande. Et puis c'était l'heure de la reprise pour les joueurs de rugby neuchâtelois. Dans le groupe A de Ligue B, la Chaux-de-Fonds a perdu 10-5 sur le terrain de Zoug samedi. Les pensionnaires des Arêtes s'affichent au 6e et dernier rang de leur groupe. Et dans le groupe B, le Neuchâtel Sport Rugby Club devait jouer à Winterthur, mais la rencontre n'a pas eu lieu en cause un problème de terrain du côté des Uriquois.
18h14, l'actualité continue sur rtn.ch et puis nous on va prendre quelques nouvelles de la météo.
La météo avec votre garage Émile Frey, Chaux-de-Fonds. Un regard sur le passé avec une vision d'avenir.
Avec un ciel un peu partagé ces prochaines heures, il devrait se dégager quelque peu en région de plaine, restera un petit peu plus couvert au-dessus du relief. La nuit qui devrait être assez froide, on annonce des températures jusqu'à moins 6 à moins 8 degrés cette nuit dans les montagnes neuchâteloises. Demain, quelques bancs de nuages bas le matin qui évolueront en cumulus en cours de journée. Sinon, le temps sera globalement ensoleillé avec des températures par contre plutôt basses pour la saison. Des maximales de moins 1 degré en journée à la Chaux de Fonds, au Locle ainsi que dans le Val de Rue. 0 degré au maximum dans le Val de Travers. 5 degrés attendus à Neuchâtel, Payerne et Yverdon. Des températures froides encore accentuées par un courant de bise.
C'était la météo avec Mitsubishi Eclipse. La technologie de demain accessible aujourd'hui dans votre centre automobile Émile Frey, Chaux de Fonds.